Bienvenue pour cette deuxième journée du colloque Les natures en question. Nous allons consacrer cette matinée à un rapport qui me semble tout à fait particulier à l'Occident, mais on le verra ce que Anne Schenck nous dit à ce propos, entre l'idée de nature et puis l'idée d'une caractéristique propre des humains, qui serait qu'on appelle la nature humaine, qui est en partie indexée sur la nature et en partie extérieure à elle. Et pour cela, nous avons demandé à différentes personnalités d'intervenir sur ce sujet avec des éclairages différents. Et la première personne à nous parler de cette question, c'est Justin Smith, qui est professeur d'histoire et de philosophie des sciences à l'université Paris 7, qui est un spécialiste en particulier de la philosophie de la biologie, mais il a écrit sur Leibniz aussi, spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle, auteur d'une demi-douzaine de livres. Et le livre qui m'avait tout particulièrement intéressé, qui m'avait incité à lui demander de venir nous parler, c'est un livre qui est paru il y a 2 ans, qui s'appelle « Nature, Human Nature and Human Difference, Race in Early Modern Philosophy », et qui est au fond une analyse de la façon dont la nature humaine et le début des classifications raciologiques se sont développées au XVIIIe siècle. Donc je vous laisse la parole, Justin, et pour une demi-heure.
Merci beaucoup de cette introduction généreuse. Alors, du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe, de nombreux auteurs européens ont cherché à relier l'inégalité raciale humaine à des traits physiologiques ou phénotypiques visibles. Rétrospectivement, les différentes théories s'avèrent être autant de formes de rationalisation a posteriori des inégalités sociales déjà existantes. Toutefois, l'idée que c'est le cœur qui produit ou qui cause la personne, un présupposé fondamental du naturalisme moderne, a contribué de façon importante à ce que cette rationalisation ait pu paraître comme un modèle exemplaire du raisonnement scientifique. Or, aujourd'hui, aucun membre de la communauté scientifique ne prend plus au sérieux l'idée qu'il existe des différences raciales essentielles à l'intérieur de l'espèce humaine, qu'il y a de vrais sous-types de l'espèce, que la classification raciale réussit à découper la nature à ses joints. Ce rejet du réalisme racial par la communauté scientifique a été officiellement instauré dans la déclaration de 1950 de l'UNESCO sur la question de la race, signée par Claude Lévi-Strauss, entre autres. Il a été approfondi dans les décennies suivantes, par exemple dans la recherche de Richard Lewontin du début des années 1970, prouvant que la différence entre deux individus de deux races différentes n'est pas plus grande en moyenne que celle entre deux individus de la même race sélectionnée au hasard. La race est donc exposée comme catégorie populaire, comme un folk taxon, sans aucune validité scientifique. Il est vrai que récemment, les résultats de Lewontin ont été remis en question par des chercheurs qui ne sont pas, eux, des idéologues racistes, voire, par exemple, les travaux de Edwards ou de Rosenberg. Et personne ne va douter que les individus appartenant à des populations dans des régions différentes du globe tendent à partager des traits physiques les uns avec les autres, qu'en moyenne, un Nigérien ressemble moins à un Suédois qu'il ne ressemble à un autre Nigérien. Mais nous n'avions pas besoin de la science pour nous informer de cela. Et ce n'est pas non plus la science, mais plutôt l'analyse conceptuelle qui peut nous expliquer pourquoi ce fait évident, la différence apparente entre un Nigérien et un Suédois, ne nous révèle aucune frontière réelle. aucun joint de la nature. Comme l'explique bien Naomi Zack, ou moi-même, dans le livre déjà cité, on a tort de croire que le jugement de différence raciale relève d'une perception directe des traits physiques phénoménalement saillants. C'est plutôt l'inverse. On juge d'abord qu'il y a une différence essentielle interne et on cherche ensuite des différences physiques perceptibles pour ancrer cette différence invisible supposée. C'est pour cette raison que les chercheurs en ce qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis la philosophie critique de la race préfèrent parler de catégories racialisées au lieu de parler de catégories raciales ou de race. C'est vrai qu'on peut facilement distinguer un Nigérien et un Suédois, et souvent, mais pas toujours, un blanc américain et un africain américain, d'après le phénotype. Cette facilité est toutefois loin d'être la règle dans l'histoire du racisme. Et ce qui est à l'œuvre le plus souvent, c'est une exagération ou même une simple invention des différences physiques inspirées par le jugement préalable d'une différence essentielle, comme c'était le cas pour les Juifs en Europe dans la première moitié du XXe siècle ou pour les nomades kazakhs selon les nomades mongols d'aujourd'hui. Les Juifs, pour prendre l'exemple mieux connu, étaient donc racialisés à un moment de l'histoire et déracialisés à un autre. Arménien sert aussi comme bel exemple de cette malléabilité de la race, comme l'a montré Francisco Betancourt dans son livre de 2013. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bruit dernièrement à propos de la question de savoir si Kim Kardashian est une personne de couleur ou non. Si elle ne l'est pas, la sagesse populaire nous en instruit. Elle est coupable du crime de blackface contemporain pour avoir osé apparaître en public en portant dans les vêtements, dans les cheveux, les gestes, certains signifiants de la culture africaine-américaine. La majorité des jeunes Américains l'ont condamnée, la traitant de femme blanche qui fait semblant d'être noire. Parallèlement à cette discussion, des années de persécution et de préjugés contre les Américains d'origine iranienne, culminant dans la décision de l'administration Trump de les mettre sur une liste noire qui rend difficile leur retour dans leur nouveau pays, ces années de persécution ont donc eu comme effet de coloriser les Irano-Américains. Donc nous sommes arrivés à un point dans ce contexte local américain où les Arméniens sont blancs et les Persans sont de couleur. Ce jugement ignore clairement des questions d'histoire et de religion qui précèdent de loin toute l'histoire des États-Unis. Mais cette histoire parle tout de même à travers leur jugement. Et les Américains prennent à tort ces jugements pour de simples descriptions des traits physiques. Et c'est cela la magie, si vous voulez, du racisme. Faire voir des preuves de ce qu'on soupçonnait déjà exister sans pouvoir le voir. Faire apparaître dans le corps ce qu'on attribuait déjà à l'âme. Deuxième pas. Bruno Snell a argumenté au milieu du siècle dernier qu'il manquait aux Grecs à l'époque d'Homère une idée concrète du corps. Les premières occurrences du mot « soma » étant synonyme de « cadavre ». D'après lui, une telle idée apparaîtrait seulement au moment où l'idée complémentaire de l'esprit commence à se figer. Ainsi, pour qu'un individu se conçoive comme étant dans un corps, comme « embodied », il faut qu'il soit d'abord capable de se concevoir comme étant un sujet immatériel, ou au moins pneumatique, capable d'être localisé dans un corps. Or, de nombreux penseurs de diverses traditions ont bel et bien pu concevoir des sujets sans corps. Ce qui nous montre que l'idée de l'esprit n'implique pas toujours celle d'un esprit incarné. Ceci est particulièrement clair dans la doctrine souvent appelée dualisme associé surtout au nom de René Descartes. La capacité de penser l'esprit indépendamment du corps a souvent été considérée comme un accomplissement singulier de la réflexion abstraite propre aux Occidentaux, comme une capacité rare parmi les êtres humains de penser au-delà des données de l'expérience perceptuelle. Malgré l'argument de Snell, on a souvent présumé dans la tradition philosophique occidentale que c'est avec la donnée certaine du corps que nous commençons et que ce n'est qu'ensuite, après un grand effort intellectuel et peut-être aussi avec l'assistance divine, que nous découvrons le secret de l'esprit. L'histoire des contacts transatlantiques, qui commence à la fin du XVe siècle, peut nous aider à mieux comprendre ce qui est vraiment particulier dans la pensée européenne sur le rapport âme-corps. À partir des premières rencontres des Espagnols, chrétiens, aristotéliciens, plus ou moins, avec les indigènes américains, nous détectons une confusion réciproque concernant les engagements ontologiques fondamentaux de l'autre groupe. Prenons un exemple classique et peut-être déjà un peu épuisé. Lévi-Strauss, dans son « Race et histoire » de 1952, parle des peuples indigènes des Caraïbes qui, au XVIe siècle, tentaient de vérifier en noyant et immergeant les hommes blancs qu'ils avaient fait prisonniers si leurs corps étaient autant sujets à la putréfaction que les leurs. L'interprétation la plus commune de cette histoire, aujourd'hui déjà bien connue, c'est que, alors que les Européens soupçonnaient souvent les Américains d'être des animaux, les Américains, pour leur part, prenaient les Européens pour des dieux et avaient ainsi du mal à croire que les corps des Européens étaient des corps naturels dans le sens usuel du terme. Il serait utile toutefois de compléter cette explication avec ce qu'a écrit Eduardo Viveros de Castro sur les conséquences de ce premier contact. Il s'agit ici précisément d'un choc entre deux ethnocentrismes ou, pour l'exprimer autrement, entre deux régimes ontologiques. Dans le régime européen, l'âme est la dimension marquée, l'élément fondamental pour qu'un être quelconque puisse même candidater pour être inclus dans l'espèce humaine. Pour les Européens, la corporéité d'un tel candidat n'est jamais mise en question. C'est le corps qui est certain. Pour l'Américain, par contraste, il n'y a jamais de doute que les Européens aient des âmes. Et néanmoins, ce fait en soi ne leur accorde pas le statut d'être humain. Car il faut également établir que leurs corps apparents sont des corps réels. Nous avons aujourd'hui le réflexe de dénoncer l'absurdité du doute du conquistador concernant l'humanité des Américains qu'il était en train de vaincre et d'annihiler. Nous voyons rétrospectivement que ce doute résulte d'un ensemble d'engagements ontologiques provinciaux, ou autrement dit, nous sommes capables aujourd'hui de démasquer l'ontologie des Espagnols comme rien d'autre qu'un ethnocentrisme. Mais le caractère écrasant et total de la conquête nous empêche de voir en même temps le fait qu'il y ait eu également une perspective sur les Européens, que les Américains se posaient des questions concernant leur nature à eux, des questions qui étaient pour leur part motivées par leurs propres engagements ontologiques non universels. Dans la mesure où ces engagements peuvent être récupérés du passé, ce que nous trouvons, c'est que le modèle européen de l'être humain, comme étant essentiellement une âme qui est incarnée soit dans une maison, soit dans une prison corporelle, et qui est intimement lié avec cette maison-prison, sans être identifié à elle, n'est ni une donnée primitive de la phénoménologie de l'existence humaine, ni du simple bon sens à l'anglaise. C'est plutôt le fruit d'une histoire locale qui sera celle qui arrive à dépasser son territoire, à conquérir le monde par la violence et finalement à imposer son propre curriculum philosophique. Troisième partie. Prima facie, il y a quelque chose d'étrange dans le fait d'utiliser le vocable ontologie au pluriel, sans parler du fait d'étudier les ontologies dans une approche comparatiste. Depuis le moment où Rudolf Goclenius a introduit ce néologisme dans son Lexicon Philosophicum de 1613, ontologie est un concept censé désigner la science ou la doctrine de ce qui est. Or, il ne peut, semble-t-il, y avoir qu'une seule science de ce type. Le monde est tel qu'il est, et donc il ne peut y en avoir qu'une seule description correcte. Or, du moins ce serait le cas si l'on était confronté en même temps à la polysémie du mot « monde », qui se trouva au cœur des controverses en philosophie dans les années qui suivirent la publication du lexique de Goclenius. Par contraste avec « univers » ou « espace », « monde » invite facilement à être pensé au pluriel. Déjà, Aristote avait noté que les humains habitaient un monde commun et singulier seulement en état de veille, car dans le rêve, chacun habite son propre monde. La radicalité du livre de Descartes, intitulé « Le monde », écrit autour de 1630, était justement d'insister sur l'uniformité et l'homogénéité de tout ce qui existe, sur le fait que toujours et partout, c'est tout comme ici, pour citer le protagoniste de l'opéra comique de la deuxième moitié du XVIIe siècle, Arlequin dans la Lune. Pourquoi le concept de monde se trouve-t-il problématisé à ce moment précis de l'histoire? La phrase même de « nouveau monde » exprime une ambiguïté que les penseurs du XVIIe siècle désirant incorporer l'Amérique économiquement, cartographiquement, épistémiquement, dans leur propre monde, se précipitaient d'éliminer. Ainsi, l'écrivain d'origine inca, Garcilaso de la Vega, insiste dans ses Commentarios Reales de los Incas de 1609 qu'il ne faut pas concevoir son pays comme appartenant à une autre réalité que celle de l'Espagne, qu'il ne faut pas le découper ni ontologiquement ni géographiquement. S'il y a, écrit-il, des hommes qui s'imaginent qu'il existe plusieurs mondes, il n'y a aucune autre réponse à leur donner qui persistent dans leurs croyances hérétiques jusqu'à ce qu'ils en soient désabusés en enfer. La philosophie européenne moderne, comme nous commençons à percevoir, a été dès le début un projet transatlantique. Concentrons-nous en ce qui suit sur le cas de Gottfried Wilhelm Leibniz. Le philosophe allemand passe la plupart de l'année 1695 à faire des recherches sur les propriétés de la racine brésilienne Ipecacuanha, dont il publie les résultats l'année suivante dans un rapport à la Société Léopoldine d'Hambourg intitulé « De novo antidysenterico americano ». C'est Wilhelm Piso qui ramène la racine en Europe pour la première fois en 1641. Il la décrit de façon détaillée dans sa Historia Naturalis Brasiliae de 1648. Ipecacuanha arrive à Paris en 1672 quand le physicien de Louis XIV, Jean-Adrien Helvétius, l'utilise pour guérir la dysenterie du roi, semble-t-il avec grand succès. Leibniz avait espéré extraire de cette plante non seulement des remèdes médicinaux, mais également, dans la mesure du possible, des savoirs indigènes brésiliens. Il rejette donc l'opinion de certains autres qui nient que les remèdes avec tant de vertus déjà démontrées pourraient être obtenus pour les maladies de tous les tempéraments et toutes les constitutions. Il y en a, poursuit-il, qui condamne tout ce qui est exotique comme inutile pour nos corps européens. Cette même année, il publie son nouveau système de la nature et de la communication des substances, un traité pour le moins plus connu que celui sur l'Ipecacuanha. C'est dans celui-ci qu'il parle pour la première fois de sa théorie métaphysique de l'harmonie préétablie et qui raffine et développe sa nouvelle idée des monades, des éléments qui, d'après lui, sous-tendent tout ce qui existe dans le monde naturel. Ce qui est réel dans le monde, ce ne sont pas les corps, c'est-à-dire les composés, mais plutôt les atomes métaphysiques et immatériels, les sites ou les centres de perception et d'agentivité. Toutes les perceptions d'une monade passent néanmoins par le moyen d'un corps phénoménal, mais au final, la corporéité elle-même n'est autre chose que le résultat de la perception confuse. Confusion est entendue ici dans le sens littéral de ce qui est fusionné ensemble. Les monades sont en soi parfaitement hermétiques, ce sont des mondes à part, et même si la réalité est, pour Leibniz comme pour Descartes, parfaitement homogène et uniforme, c'est ce caractère confus de la perception monadique qui fournit l'explication la plus profonde de l'existence apparente dans la nature d'une variété innombrable de formes corporelles. Appartenir à une espèce, pour Leibniz, est une question de tout ou rien, déterminée entièrement par le fait de descendre des mêmes ancêtres. Et même une variation morphologique extrême à l'intérieur d'une espèce ne peut pas signifier des degrés d'appartenance. La déviation du standard d'un type ne produit pas des chiens qui sont moins chiens que d'autres, ni des hommes qui sont moins hommes. Ce qui compte, c'est que le descendant conserve la même activité spécifique que les parents, que Leibniz appelle l'officium, l'office spécial, fondé in rigore metaphysico, dans l'appétit, qui pour sa part n'est autre chose que la réalisation sérielle de la perception. Donc, la définition d'une espèce est liée rigoureusement à son activité, à son éthologie, si vous voulez, et non pas à sa morphologie. C'est ce que tu fais et non pas ce à quoi tu ressembles qui détermine ce que tu es. Et ce que tu fais dérive de ce que tu perçois. Souvent, c'est le fait d'empêcher un animal de faire ce qu'il fait par nature, d'après son officium, qui mène à sa déformation morphologique. Ainsi, dans le Journal des savants du 5 juillet 1677, Leibniz raconte l'histoire d'un chevreuil coiffé de manière fort extraordinaire, soupçonné par certains d'être une licorne, à cause du fait que ses cornes ont été comme fondues ensemble, confuses, pour le dire autrement. Leibniz explique que cette déformation est une conséquence du fait que dans la période de sa croissance, les mouvements naturels de l'animal ont été artificiellement restreints. Je cite, « Je ne sais si le chagrin qu'il avait de se voir privé de sa liberté n'y aurait pas contribué, car vous savez ce que les histoires nous apprennent, qu'une grande tristesse ou inquiétude a pu changer dans une nuit la couleur des cheveux d'un prisonnier et de jeune homme qu'il était en faire paraître un vieillard. La cause physique de cette excrescence pourrait être attribuée à ce que l'humeur aqueuse de cet animal ne pouvant plus être dissipée dès qu'il fut attaché, comme elle l'est ordinairement par la chaleur que ces sortes d'animaux acquièrent par leur bond, leur saut et leur course, cette grande humidité mêlée avec le suc et le sel volatile qui forment les cornes a attiré en bas par sa pesanteur cette matière et l'a rendue mollasse et d'un tempérament plus froid. Le chevreuil coiffé, dans d'autres mots, est un chevreuil tout entier. Les déformations ne sont ni des monstruosités, ni les débuts de ce que les darwiniens appelleront la spéciation. Elles sont plutôt les traces d'une interruption dans le processus de développement typique. Quant aux êtres humains, Leibniz distingue donc la nature interne et les marques externes d'un animal, en précisant que la nature interne d'un homme, son officium, est précisément la faculté de l'intellect. Normalement, cet officium est perceptible dans les marques externes, mais il ne faut pas qu'il soit perceptible pour qu'un homme reste un homme. Des traits externes différents chez deux hommes différents peuvent parfois donner l'impression qu'il s'agit de deux espèces, mais comme Leibniz écrit dans les Nouveaux Essais sur l'entendement humain de 1704, le mélange de figures n'est pas toujours un mélange d'espèces. Il raconte l'histoire d'un enfant déformé dont l'aptitude à être baptisé est disputée par certains membres du clergé. « Voilà un enfant, écrit-il, qui fut fort près d'être exclu de l'espèce simplement à cause de sa forme. » La déformation ne peut pas servir comme signe de l'absence d'une âme rationnelle, pour la même raison qui fait que la physionomie est une pratique frauduleuse. On ne saurait donner aucune raison suffisante, continue-t-il, pourquoi une âme raisonnable n'aurait pu loger en lui si les traits de son visage eussent été un peu plus altérés, pourquoi un visage un peu plus long, ou un nez plus plat, ou une bouche plus fendue n'aurait pu subsister aussi bien que le reste de la figure irrégulière avec une âme et des qualités qui le rendait capable, tout contrefaite qu'il était, d'avoir une dignité dans l'Église. Ainsi, Leibniz croit pouvoir montrer que l'espèce humaine, comme par ailleurs toutes les espèces d'animaux, a une définition qui est à la fois réelle et nominale, même s'il est d'accord avec John Locke que les espèces physiques, comme celles du cuivre ou du soufre, ne sont finalement que des noms. Il explique donc dans les Nouveaux Essais que c'est la raison qui est la chose la plus interne à l'homme et qui en fait alors la définition. C'est pourquoi, poursuit-il, la barbe et la queue ne seront point considérées auprès de cette définition. Un homme sylvestre, dit-il, bien que velu, se fera reconnaître. L'homme sylvestre ici est évidemment l'homo sylvestris, ou pour citer le malais original, l'orang-outan, ou plus précisément le chimpanzé, décrit dans le traité du même nom publié par Edward Tyson en 1699. Or, un homme sylvestre dans ce sens strict n'est pas un homme. Et en réalité, la diversité à l'intérieur de l'espèce humaine, au moins sur le plan physique, est beaucoup moins prononcée que la différence entre n'importe quel homme et n'importe quel grand singe, comme nous avons appris hier soir. Quoi qu'il en soit, ce que Leibniz veut souligner ici, c'est que même si les différences physiques entre les hommes sont énormes, ces différences ne peuvent pas résulter d'une différence d'essence, de ce qui est le plus interne. Si l'on empêche cette nature interne de se développer, il peut arriver que le corps se développe différemment, tout comme les cornes du chevreuil que l'on a empêché de sauter et de courir. Mais cela ne change rien pour l'humanité. Leibniz est souvent qualifié de nominaliste à cause de son dicton selon lequel « Natura non movit per saltus ». La nature ne se meut pas par saut. Or, il y a en effet pour lui un écart entre l'espèce humaine et toute autre espèce animale, et il faudrait faire justement un saut per impossibile pour arriver de l'autre côté. À l'intérieur de l'espèce, par contre, il n'y a ni des degrés continuels de l'humanité, ni frontières discrètes. Chaque individu est en quelque sorte identique à chaque autre, au moins en ce qui concerne l'espèce. La diversité à l'intérieur d'une espèce est la conséquence des différences au cours du développement corporel et donc du fait que les corps sont confus, chacun de sa propre façon. La diversité physique, tout comme celle des corps en général, est la conséquence phénoménale de la confusion. La conclusion. Au XVIIe siècle, en Europe, les systèmes de savoir du monde extra-européen représentaient une sorte de tertium quid entre l'a priori et l'empirique. Il s'agissait de la connaissance des faits singuliers qui portent sur le monde naturel. Les propriétés médicinales de telle ou telle racine, ou les puissances du venin de tel ou tel serpent. Mais cette connaissance n'était pas apprise, du moins pas de la même façon, dont un Européen décidait de se mettre à apprendre la science chimique ou botanique. Elle était plutôt censée naître de concert avec l'individu, simplement en vertu de l'intégration de celui-ci dans une société qui était, elle, intégrée dans la nature. Une telle société était supposément sans connaissance des vérités éternelles et inchangeables, l'existence de Dieu notamment. Mais en même temps, ses membres avaient ce que la plupart des philosophes européens en considéraient comme une contradiction dans les termes, la connaissance innée des faits singuliers et contingents. L'une des innovations les plus étonnantes de la philosophie radicalement rationaliste de Leibniz a été de montrer comment ce genre de connaissance est possible et même nécessaire pour tous les êtres humains en tant qu'humains. À la fin du XVIIe siècle, donc, les systèmes de savoir indigènes offraient déjà un modèle pour étudier l'esprit comme essentiellement enraciné dans l'environnement naturel. La particularité de Leibniz, pour sa part, est de nous offrir une théorie de cet enracinement qui ne le considère pas comme une étape inférieure du développement de l'esprit humain, mais, loin de cela, qui postule que c'est dans la nature de la perception d'être toujours plongé dans la nature elle-même, ou autrement dit, d'être confuse. Mais cette immersion dans la nature n'est pas un naturalisme dans le sens de Philippe d'Escola, car pour Leibniz, ce que la nature est, finalement, c'est un reflet ou une explication sur le plan phénoménal de la perception elle-même. Pour cette raison, on peut comprendre la tendance qu'on observe depuis Durkheim d'assimiler la philosophie à une sorte d'animisme. Le contenu de toutes les monades, explique celui-ci, est identique. Toutes, en effet, sont des consciences qui expriment un seul et même objet, le monde. Seulement, chacune l'exprime de son point de vue et à sa manière. On sait comment cette différence de perspective vient de ce que les monades sont diversement situées les unes par rapport aux autres. Je soupçonne, pour conclure, sans pouvoir m'attarder là-dessus maintenant, que c'est justement ce côté animiste ou bien perspectiviste de la philosophie de Leibniz qui lui a donné les outils conceptuels pour se battre contre la hiérarchisation des races humaines que ses contemporains en Paris, empiristes, comme par exemple John Locke, étaient en train d'articuler à l'époque. Selon Leibniz, bien sûr, Locke était, selon soi-même, Locke était innocent. Il ne faisait que reconnaître les conséquences évidentes de la naturalisation de l'être humain. Les quatre derniers siècles nous ont bien démontré les limites de ce projet. Comme nous suggère l'approche comparatiste de l'ontologie développée par Philippe d'Escola, le problème ne dérivait pas peut-être du fait que l'être humain serait quelque chose de non naturel, et donc il ne faut pas retourner à une idée d'un être séparé de la nature par le fait de sa position singulière d'un esprit, mais plutôt de la conception erronée d'une nature en soi à laquelle l'être humain puisse être assimilé. Merci de votre attention.